Alors là, c'est la question la plus dure à laquelle...
Salut, c'est Cléo et bienvenue dans Championne du Monde, le podcast de toutes les femmes qui vivent le sport aujourd'hui. Pongiste professionnelle, aficionados du Stade Vélodrome, médecin du sport ou encore vos mères fans de Kevin Mayer, dans chaque épisode, partez à la rencontre de ces femmes passionnantes qui sont plus badass que la plus badass de tes copines. Bonne écoute! Bienvenue dans le 20e et dernier épisode de la saison 2 de Championne du Monde. Avant de vous concocter une nouvelle saison pleine de surprises, nous vous présentons Caroline Angelini, qui exerce un métier parfois décrié et pourtant devenu essentiel dans le monde du sport. Caroline est conseillère médias et images pour des athlètes professionnels et plus particulièrement pour des sportives. Mélina Robert-Michon, Charline Picon, Sarah Ouramoun, Alison Pinault sont autant de championnes au palmarès exceptionnel dont Caroline gère l'image médiatique et la communication. Si nous déplorons toujours que les médias traditionnels et sportifs ne fassent pas assez la part belle au sport féminin, Caroline Angelini, elle, réussit le tour de force de faire régulièrement briller ses athlètes féminines dans la presse pour des prises de parole qui resteront pour certaines gravées dans les mémoires. Il n'en fallait donc pas moins pour qu'une question nous brûle les lèvres. Quelle est la méthode de la meilleure RP du sport féminin en France ? Bonjour Caroline !
Bonjour Cléo !
On est ravis de t'avoir dans le podcast aujourd'hui pour une thématique un peu particulière puisqu'on va parler de ton métier qui est conseillère médias et images.
Exactement.
Alors pour faire rapidement une petite base pour que les gens comprennent avec qui tu travailles parce que je trouve que c'est important et parlant vu que bon, qui plus est, on défend le sport féminin chez Championne du Monde. Pour savoir donc qui sont les personnes avec qui tu travailles, je vais citer quelques noms, entre autres Sarah Ouramoun, vice-championne olympique de boxe anglaise, Mélina Robert-Michon, vice-championne olympique de lancer de disque, Chloé Trépeuche, championne du monde et bronze olympique de snowboard, Alison Pinault, qu'on a eu la chance d'avoir dans le podcast
il n'y a pas longtemps,
absolument, Charline Picon, qui est championne du monde et olympique de planche à voile, Laura Gloser, qui fait également partie de l'équipe de France de hand, Valériane Ayayi, Déborah Ferrand, bon voilà, on va s'arrêter là.
Plein de femmes extra.
Exactement, plein de femmes extraordinaires et plein de femmes sportives.
Exactement.
En l'occurrence, est-ce que tu peux nous expliquer plus concrètement ce qu'est ton métier ?
Alors, mon métier consiste à accompagner d'une façon globale. Alors, des sportives, mais je précise que je m'arrive de travailler avec des hommes, hein, même si là, effectivement...
citais que les femmes.
Voilà, la mixité chez moi n'est pas forcément bien respectée, mais pas dans le sens habituel, voilà. Alors, il se trouve que pour des tas de raisons, connaissances, peut-être effet boule de neige de l'après-Rio avec Sarah Ouramoun, j'accompagne énormément de femmes et j'en suis ravie, mais je précise, j'accepte les clients garçons, hein, y a pas de problème. Donc voilà, donc je suis une communicante à la base, aujourd'hui plus particulièrement spécialisée dans le sport et l'accompagnement, ce mot-là est important pour moi puisque j'aime bien faire des accompagnements 360 où j'interviens à la fois sur leur image en général, donc c'est aussi, ça passe par les relations presse, ça passe par l'événementiel, les événements sur lesquels on accepte d'être ou pas, le conseil sur les réseaux sociaux et puis aussi tout le travail avec les marques, ce qui pour le sport féminin n'est pas le plus facile toujours. Mais voilà, la gestion de leur contrat de sponsoring. Donc, c'est un accompagnement très, très global. Et effectivement, en ce moment, je suis très, très engagée sur le sport féminin et les sports olympiques, puisque j'ai plusieurs olympiennes qui préparent les Jeux de Tokyo dans mon équipe, on va dire, ma team, on peut le dire comme ça.
Et comment t'en es arrivée à te spécialiser
dans vraiment le sport et encore plus spécialisé le sport féminin parce que t'es vraiment dans quelque chose de, oui. Bah, de très, très spécifique,
oui,
très
oui,
niche.
Oui, avec beaucoup de mamans aussi. Voilà. C'est... Alors, bah, je ne l'ai pas fait exprès. Je ne l'ai pas fait exprès, mais j'en suis ravie. Après, voilà, tout prend un sens hein, si on l'analyse sur le temps et la durée, mais je vais faire plus court et plus simple. Bon, déjà, pourquoi le sport ? Moi, j'ai fait une première partie de vie professionnelle, donc en tant que directrice de communication, mais pas précisément dans le sport, même si je suis d'une famille de sportifs et passionnée de sport, il n'y a pas non plus de hasard. Un moment, un tournant de ma vie professionnelle, des rencontres, etc. L'idée aussi de peut-être me lancer, mm-hmm. de travailler différemment, autrement, avec plus de liberté. Donc voilà comment je suis arrivée dans le monde du sport. Et puis après, pourquoi le sport ? Alors déjà, sur l'aspect féminin, j'ai toujours, même quand j'étais en entreprise ou en collectivité, été toujours très attentive à la place des femmes. Moi, je suis une femme qui a choisi, j'étais 4 sub, j'avais 3 enfants et on m'avait bien expliqué plusieurs fois que c'était pas évident et comment j'allais faire, etc. J'ai toujours refusé de choisir.
Ouais.
Donc, je pense aussi que bah, pour l'avoir vécu, moi, autrement, hein, pas en tant que sportive, mais en tant que professionnelle, voilà, c'est quelque chose qui résonnait en moi. Donc voilà, donc il y avait certainement inconsciemment toute cette volonté, toute cette idée. Et puis c'est surtout après avoir bossé un peu dans le milieu du football et tout, qui est un milieu que je connais bien par ailleurs. Changement de cap, Sarah Oramoun me sollicite. On se connaissait déjà un petit peu, on s'était rencontrés comme ça. Me sollicite pour l'accompagner pour les Jeux de Rio.
D'accord.
Et elle était un peu seule au monde. Mm-hmm. C'est-à-dire que en gros. Personne ne voulait d'elle, soyons clairs, elle ouais. le dit elle-même, donc je vais pas dévoiler, c'est pas un scoop, même sa propre fédé à l'époque ne soutenait pas réellement, elle venait d'avoir une petite fille, ne soutenait pas réellement son projet olympique.
Ouais.
Voilà, on lui expliquait que bah bon c'était peut-être pas une très bonne idée, qu'elle avait plus 20 ans, qu'elle déjà c'était une maman, ouais. que
croyait pas vraiment en elle.
Voilà, on chantait qu'elle avait pas de soutien et un jour elle m'a dit écoute est-ce que tu veux pas m'aider, tu veux pas m'accompagner? Et puis bah moi le fait en fait que personne ne veuille d'elle, ça m'a donné encore plus envie de l'accompagner parce que je connaissais Sarah depuis un petit moment déjà. J'ai toujours senti que cette fille elle avait un truc et moi j'étais persuadée qu'elle aurait une médaille. J'en étais convaincue parce que elle s'est, enfin, comme je dis toujours, donc du coup, Sarah, elle était sur sa prépa olympique. Moi, je me suis lancée, mise à mon compte. Enfin, elle m'a aussi coachée. On s'est apporté.
Ça a été un double accompagnement.
Exactement. On s'est apporté l'une l'autre. Et aujourd'hui, bah, voilà, ça fait plus de 5 ans. Que ça dure, mais j'oublie pas parce que je crois que voilà, si elle avait pas croisé ma route aujourd'hui, l'histoire
serait pas la même.
Non, serait pas la même. Ça veut pas dire que j'aurais pas vécu une autre chose peut-être sympa, mais en tout cas, ça aurait pas été pareil sans Sarah. Et puis après, voilà, et on va pas revenir dessus. Il s'est passé ce qui s'est passé à Rio. La belle histoire de Sarah, pas seulement sur le ring, je crois que Sarah l'a touché les gens, notamment les femmes, parce qu'on a eu beaucoup de témoignages de femmes, tous âges, tout milieu professionnel, sportif, pas sportif, etc., qui, quand elles entendaient Sarah au sortir du ring sur les interviews d'après combat, envoyaient des petits messages en disant que ça leur faisait du bien, qu'elle leur donnait le moral, qu'elle leur donnait l'envie de reprendre une formation, de se remettre au sport, de faire un régime, plein de choses comme ça, parce que visiblement, je pense qu'elle avait un discours, un message avec énormément d'empathie, mais aussi énormément de volonté. Ça, c'est le savant mélange de Sarah, qui a fait qu'elle a touché les gens. Et puis après, bah, on a déroulé, on a bossé, hein, y a pas de secret, on n'est pas vraiment partis en vacances, ni l'une ni l'autre après Rio, il n'y a pas eu de cocotier pour nous. Mais voilà, les choses se sont faites. Puis une chose, une autre, j'ai d'autres sportives qui, du coup, avaient
peut-être aussi pu voir un peu la façon dont je travaillais, ont été intéressés pour avoir le même genre d'accompagnement et qui sont venus vers moi. Et pour chacune, il y a des accroches différentes. Il y a des thèmes qui leur correspondent mieux.
Elles ont toutes leur personnalité.
Donc, il n'y a pas de concurrence. D'ailleurs, du coup, il y a une belle synergie, au contraire, qui s'est créée entre elles, parce que du coup, on a créé un groupe WhatsApp et on communique dessus quotidiennement. Alors après, en fonction aussi des dispos des uns et des autres. Pendant le confinement, il y a eu beaucoup de rapprochements, ça a été sympa. Il y a des choses qui se sont faites qui étaient très mignonnes, qui se faisaient pas habituellement. Ils ont commencé à mettre des photos de leurs enfants, de partager des petites astuces. Et moi, j'ai plutôt tendance à penser que quand on est unis, qu'on va dans le même sens, c'est positif pour tous, parce que par exemple, sur les demandes d'interview, sur les demandes de tournage, sur des thématiques un peu on va dire similaires, par exemple sur beaucoup de demandes autour de la maternité des championnes,
on y viendra, c'est une de mes questions.
Voilà, c'est des fois j'ai l'impression d'être pédiatre ou sage-femme. Généralement, quand on me consulte pour une et qu'on apprend que je travaille également avec un tel et un tel, ce serait intéressant de les faire aussi. Donc en fait, ça leur prend rien.
Ça crée des synergies.
Ça crée au contraire des synergies. Et des fois, une demande pour une va pouvoir profiter
à une autre.
Donc, puis encore une fois, elles sont toutes différentes. Et sur des sports, il y a des sports co, des sports individuels. Ouais. Donc, voilà.
Et question justement, comment, entre guillemets, tu les choisis? Comment tu décides des sportives et sportifs avec qui tu vas travailler? Parce que j'imagine qu'en plus, maintenant, tu dois quand même avoir beaucoup de demandes.
Ouais.
Qu'est-ce qui fait que tu choisis de t'investir auprès de quelqu'un quelqu'un?
Alors ça, c'est une bonne question. Alors là, jusqu'à maintenant, c'est pas que j'ai pas choisi, mais généralement, c'est le sportif ou la sportive qui fait la première démarche. Mmh. Et ça, je pense que c'est important, parce qu'il faut qu'il en ait une énorme envie pour que ça fonctionne. Parce qu'un accompagnement, c'est quand même, on se parle quasiment tous les jours.
C'est une vraie relation.
C'est une vraie relation. Ça peut être n'importe quelle heure. On a toujours besoin quand même d'être au courant de où ils sont, ce qu'ils font. Dans les périodes de travail, j'entends évidemment. C'est une vraie relation. Donc, il faut que... c'est un peu quand, dans une relation de couple, c'est quand tu commences à recevoir des messages et dire « Ah purée, qu'est-ce qu'elle veut encore ?» ou « Qu'est-ce qu'il a encore ?» ou quoi. Donc, il faut que pour que ça se passe bien, déjà, que ce soit pour un sportif ou un chef d'entreprise ou peu importe, quand il prend la décision d'avoir un accompagnement pour travailler sa communication, son image, il faut vraiment qu'il en ait la totale volonté. Et puis après, effectivement, alors j'ai pas souvent dit non.
D'accord.
Voilà, parce que si on me propose un projet en ballon, même si je sais que ça va faire beaucoup d'heures de travail ou quoi.
Challenge.
Ouais, c'est ça. Puis quand je suis emballée, j'ai du mal à dire non. Mais ça m'est arrivé, néanmoins, et ça m'arrive, forcément. Après, il y a une histoire. Donc on se parle tout de suite. Évidemment, on se parle, on se voit très vite quand c'est possible. Mais non, généralement, on se rencontre. Moi, j'ai besoin, évidemment, de savoir leurs objectifs. Pourquoi ils ont envie de... C'est ça. Qu'est-ce qu'ils attendent de moi? On ne sait jamais au début. Et puis après, y a une histoire de feeling et de valeur. Effectivement, il y a des fois, je sens tout de suite, parce que j'ai un petit peu d'expérience et plus 20 ans, malheureusement. Ou heureusement, d'ailleurs, je ne sais pas. Je sens tout de suite si ça va coller ou pas. Voilà, ça, c'est du feeling, c'est des valeurs, on voit bien tout de suite si on est sur la même longueur d'onde ou si on n'y est pas. Donc, généralement, si on n'y est pas, on essaie.
Tu sens assez vite. Oui. Si ça va marcher.
Même si on ne les connaît pas tous personnellement, les sportifs, forcément, même si à force, on finit par en connaître beaucoup. Mais déjà, quand on sait qui il ou elle est, la façon dont il travaille, dont il communique, etc., on voit très bien. Et puis, si ça va le faire ou pas. Et puis, surtout, moi, ce qui est important pour moi, c'est si je vais pouvoir faire quelque chose pour eux.
Si tu peux leur apporter quelque chose.
Je peux leur apporter quelque chose, parce qu'il y en a certains. je suis pas la bonne personne. Enfin, ouais. Je veux dire, voilà, il faut vraiment trouver des gens avec qui ça colle. Moi, je dis toujours que c'est pas un métier que j'aurais fait correctement à 25 ou même à 35 ans. J'étais pas encore les techniques de com. Voilà, je les avais. Ça a toujours été mon métier. Mais là, l'humain, surtout avec les sportifs de haut niveau qui sont à la fois très fort et très fragile. Ouais. C'est finalement, ce projet professionnel, il est bien arrivé. Il est arrivé à un moment de ma vie où j'étais moi-même très apaisée, bien dans mes baskets, où j'avais réglé plein de choses et j'étais capable d'absorber les différentes émotions voilà, des autres, et de pouvoir les gérer. Voilà, je pense que dans ma façon de travailler, la façon elles le disent, et puis c'est pas un secret, et puis je sais pas faire autrement. Je suis très présente, très réactive quand elles ont besoin, parce que ça me semble important, hein, c'est un engagement. Je suis très maternante.
Voilà. C'est le mot que j'allais te proposer. Ouais.
C'est ça.
C'est-à-dire le côté maternel.
Comme je dis, je travaille inconsciemment, tu vois, je serais face à un psy, je régalerais. Je dirais, je travaille avec mon ventre, mais c'est ça, ouais. Je travaille avec mon ventre, avec mes tripes, je suis très maternante. Voilà, je leur dis toujours, quand je pour un nouveau contrat, je leur dis, je vous promettrai jamais de résultats. Je sais jamais à l'avance si je vais vous décrocher tel et tel contrat avec telle marque, telle interview, telle. Quand on commence, en vrai, je peux avoir des idées, mais j'en sais rien. Puis après, ça dépend pas que de moi. Ouais. Voilà. En revanche, la seule chose que je peux promettre, c'est de mouiller le maillot.
Je vais rebondir sur des propos qu'avait dit Alison Pineau dans son épisode,
ouais.
Où on parlait de toi, justement, et de la façon dont elle était accompagnée. Elle nous disait que c'était primordial pour exister en tant que... Pas que en tant que sportif, d'ailleurs, mais en dehors de l'aspect sportif, d'être accompagné à l'heure actuelle, et que sinon, c'était vraiment très compliqué d'exister, que ce soit médiatiquement ou sur la scène publique en tant que sportif, si on n'était pas accompagné. Est-ce que tu es d'accord avec ça ?
Bah, je suis, oui, évidemment, assez d'accord avec ça. Je le remercie. Mais non, en fait, je pense qu'il y a deux choses. Moi, je le dis toujours aussi, il y a forcément les perfs et les résultats. Et là, il n'y a pas besoin de moi ni d'autres, d'ailleurs. Voilà. Quoi qu'il arrive, ça, c'est le préalable. Bon, il se trouve qu'Alison, elle a un parcours...
Oui, elle a une carrière...
Une carrière assez incroyable et qui n'est pas finie. Bon, elle était aujourd'hui la seule handballeuse française à avoir été élue meilleure joueuse du monde. Enfin bon, bref. Donc, alors, y a tout ça, mais après, néanmoins, elle dit toujours « Ouais, mais avant, c'était pas pareil quand même. » Donc, je pense qu'effectivement, c'est un ensemble que... Les performances sont le préalable incontournable, mais que après effectivement il faut les valoriser, les mettre en lumière, les faire reconnaître. Et là, pour le coup, ouais, je pense que aujourd'hui, surtout dans le monde complexe dans lequel on est, avec tous les moyens de communication qui existent, tout le monde qui donne un avis sur tout, voilà, chaque sportif qui fait sa propre communication. Enfin bref, il y a un tel, tous les jours, on a une telle masse d'informations qui arrivent que si à un moment, voilà, il n'y a pas un vrai plan avec une vraie stratégie, etc., et quelqu'un qui gère ça aussi à la place du sportif ou de la sportive qui n'a pas le temps de toute façon. Alors, j'ai appris que Kylian Mbappé faisait ses réseaux sociaux tout seul, ce qui est vrai. J'ai lu ça, mais je crois vraiment
incroyable.
Que c'est vrai. Mais bon, voilà, ça c'est la partie réseaux sociaux, c'est une chose, mais après, pour tout le reste, en dehors de toute blague mise à part, mais je veux dire, en dehors de ça, quand ils ont dans une même journée 5 appels de journalistes qui arrivent, ou des SMS, ou voilà, je sais pas combien de mails pour demandé d'être la marraine de ceci, de participer à cela, de ceci, de cela, les sponsors qui demandent de faire tel poste sur les réseaux sociaux, savoir si tu es disponible tel jour pour aller là et tout. Si tu as personne qui gère,
tout gérer
ça
pour, eux.
Pour toi, donc oui, effectivement, je pense que les sportives ou les sportifs qui ont un accompagnement professionnel, hein, quelle qu'en soit la forme, mettent plus de chances, mettent forcément plus de chances de leur côté. Ça c'est certain.
Et question piège un peu, mais c'est quoi le secret d'une bonne communication quand on est un sportif ou une sportive en l'occurrence?
Bah, je crois que c'est pas différent de quand on est un sportif que quand on est un chef d'entreprise, un élu. Je pense que c'est la communication qui te correspond. C'est la communication qui te correspond et qui va permettre de toucher les gens que tu dois toucher. Voilà, pour moi qui ai travaillé pas mal avec des politiques et tout, c'est pas
si différent. Selon toi, t'as l'impression de avoir les mêmes.
Ouais, c'est pas différent. Mécanismes. Ce qui change, c'est oui, exactement. Ce qui change, c'est évidemment le carnet d'adresses, le réseau qu'il faut refaire. Mais après, pour moi, il n'y a pas vraiment de différence. Après, j'ai envie de dire aussi sur le côté purement sportif, il y a des choses, qui après vont être qui sont spécifiques, mais qui sont toutes seules. C'est-à-dire, c'est très bien que si tu fais une perf, tu as les interviews d'après match qui vont être reprises sur les réseaux sociaux, que tu es sûr d'a plus ou moins, ça va être pris par l'équipe, par les principaux quotidiens ou hebdo sportifs. Il y a des choses aussi. Ça se fait automatiquement. Il faut l'accompagner, mais ça se fait automatiquement. Après, là, ce qui est plus spécifique, c'est effectivement d'arriver à faire exister la sportive. En dehors du champ sportif et
de la performance.
Exactement. Et d'en faire ce qu'on appelle une personnalité sportive. Mmh. Voilà. Et ça, c'est autre chose. Ça, c'est un autre travail. Alors, évidemment qu'on est toujours ravis quand il y a une belle page en page sport pour nos clientes. Il n'y a pas de souci. Et il en faut. Je persiste et je signe. Mais quand on arrive quand on a un article dans Elle, dans Les Échos, presse féminine, presse spécialisée, là oui effectivement, on se dit qu'on ouvre à une autre dimension. Et ça forcément, ça demande beaucoup plus de, ça demande beaucoup de travail et c'est plus
compliqué.
Ouais, c'est beaucoup plus compliqué.
Et un peu plus de temps aussi, j'imagine, oui. Pour asseoir une
ouais,
vraie
exactement.
Image.
Ça se fait sur le temps. De toute façon, toutes les attachées de presse le savent. Hein. Des fois, on court après un papier dont on rêve, ça peut durer plus d'un an, hein, ouais. Voire plus. Hein, mais quand on a une intuition que franchement, ça, ce serait bien et tout, on travaille, on fait du fond, on fait dans notre métier, ce qui est ingrat, c'est qu'on fait beaucoup de travail caché, quoi, de travail qui se voit pas. Mais le jour où ça se voit, c'est Noël, mais c'est pas Noël, c'est pas Noël tous les jours, ça se mérite.
Et pour parler de ton travail, c'est vrai qu'on a vécu là une période un peu exceptionnelle avec le confinement, qui n'a jamais été vécu par
personne
dans l'histoire, hein, voilà, clairement. Est-ce que toi, tu as dû adapter ta façon de travailler? Est-ce que tu as ressenti qu'il y avait moins de travail ou plus de travail? Comment tu as adapté, toi, ton métier à cette situation-là?
Alors, ça a été effectivement très particulier. Au départ, je pensais que ça allait être plus calme, hein, sincèrement. Bon, alors après, ce qui a changé, c'est de toute façon, on s'est adapté de facto comme tout le monde, puisque c'était à la maison,
absolument,
quoi qu'il.
Pas le choix.
Moi, j'ai déjà à la base mon bureau à la maison, donc j'ai mon outil de travail. Donc ça, je n'ai pas été très désorganisée à ce niveau-là. Bon, après, évidemment, plus aucun, comme tout le monde, hein, plus de déplacements, plus de compètes, plus de JO. Donc,
ça, c'est un gros point.
Un gros point. Plus d'événementiel du tout. Moi, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'ai une partie des sportifs que j'accompagne, plus d'autres qui sont des sportifs en reconversion et tout, avec qui je travaille pour tout ce qui est conférences, prestations en entreprise. Donc, plus rien du tout.
Ouais.
Hein, voilà. Donc, on ne va pas se mentir. Hein, sur l'aspect business, comme pour tout le monde, c'est très compliqué. Et on n'est pas du tout un retour à la normale. Et même quand les compètes internationales vont reprendre, on ne sait pas quand.
Ouais,
c'est compliqué du côté des entreprises. Donc, le sponsoring, ça va être compliqué. C'est aussi compliqué de se enfin, on va évidemment y arriver. De toute façon, il n'y a pas le choix, donc on va y arriver. Mais on venait quasiment de finir une année pré-olympique. Une année pré-olympique dans nos métiers, c'est énormément de pression, de travail. C'est la course à tout, aux articles, aux marques, voilà. Il y a tous les plans de com étaient, tout était huilé. En plus, tout se passait très, très bien pour tout le monde. J'ai eu un peu, voilà. Et puis, il faut tout recommencer. Donc, tout ça, il faut le.
Double dose de travail.
Voilà, tout ça, il faut le gérer. Et puis là, pour l'instant, voilà, on est vraiment en attente. Donc, en fait, toute la partie événementielle, etc., donc, a disparu. Sur l'aspect sponsoring, conseiller à mes clientes, ce qu'on a fait, c'est effectivement, comme il y avait tout un tas de choses qui étaient programmées, prévues avant le départ à Tokyo, qui ne pouvaient pas se faire. Donc, c'était important d'entretenir, de faire beaucoup de relationnel, donc d'échanger par téléphone, de prendre déjà des nouvelles des uns et des autres. Ça peut paraître idiot, mais voilà, déjà rien que ça, de maintenir le contact, moi ça a vraiment été...
Ne pas se faire oublier.
Voilà, et puis de faire en sorte que les filles en direct maintiennent le contact avec les marques. Alors, ça a pris différentes formes, des réunions en visio, des choses comme ça. Donc, il y a eu toute cette partie-là. Et puis après, sur la partie presse, alors là... Parce que moi, quand mes copines disaient qu'elles étaient confinées, qu'elles s'ennuyaient, qu'elles cuisinaient,
cuisiner.
Pas trop, encore pas, un tout petit peu plus que d'habitude, parce que j'aime pas beaucoup déjà, mais non, en fait, ça a été très chouette à vivre. Il y a eu une déferlante de demandes de médias.
Ouais.
Déferlante. C'était
ils avaient besoin de contenu. Pour compenser les résultats sportifs sur lesquels ils pouvaient pas communiquer.
Exactement. Ils ont très vite certains adapté leur grille, mis en place des émissions qui se faisaient à 3 ou à 4 par Zoom, Skype. Enfin bref, tout le monde c'est très très. Moi j'étais épatée par la façon dont tout le monde s'est très vite organisé, a très vite réagi. Et donc là, très clairement, donc j'ai eu beaucoup de demandes qui sont arrivées. Moi, j'ai dit aussi, on va être clair, là, vous avez plus le temps de le faire, même si elles sont toujours très partantes, généralement, pour les interviews. Il va falloir aussi être généreuse et en faire un petit peu chaque jour. Alors, je fais ça, c'est mon travail d'équilibrer et tout. Mais parce qu'en fait, là, il va falloir aussi être solidaire des copains des médias parce qu'on a tout le monde a besoin de tout le monde et s'il y a des rubriques qui s'arrêtent ou des médias qui ne paraissent plus, enfin il y a eu des choses, l'équipe n'avait plus le mag, enfin bon voilà, je leur ai dit voilà, après on va pas tous bien s'en sortir quoi, donc il faut donner du contenu. Et en même temps je vais être très honnête par rapport à ça, elles avaient besoin d'exister et ça leur donnait aussi il y avait des places à prendre, donc il fallait aussi être présente, et notamment alors ça concernait essentiellement les olympiennes clairement, même moi par rapport à mes relations presse, à mon fichier presse et tout, j'ai fait la connaissance avec plein de journalistes avec lesquels je ne travaillais pas avant, j'ai pu prendre beaucoup de temps pour parler sur du fond, pour donner des nouvelles même sans qu'il y ait forcément un article ou une...
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Une interview tout de suite, alors j'ai vraiment pu faire du travail de fond. Donc ça c'était très agréable, beaucoup de rencontres, du coup ça, puis comme on vivait souvent des fois des petits moments un peu compliqués avec les aléas des enregistrements à distance et tout, donc pas mal aussi de fou rire, de complicité, enfin humainement des choses chouettes vraiment. Et donc voilà, donc après il y a eu des phases dans les relations presse, donc les 15 premiers jours c'était comment vivez-vous le confinement. Enfin, comment tu vis le confinement. Après, on a eu la phase de quel est les jeux reportés.
Donc, comment tu le vis ?
Comment tu le vis ? Donc voilà, il y a eu, il y a eu cette, cette phase-là. Après, on est rentré dans une période un peu plus vidéo, etc. On demandait
les
pas mal.
Les routines sportives.
Voilà, les routines, etc. Et puis après, vers la fin, on a eu la quatrième phase, qui est plus une phase justement sur le sport féminin, sur l'impact du Covid. Est-ce que ça va plus impacter les femmes que les hommes, donc l'impact du Covid, là c'est un peu la dernière phase, donc je pourrais un peu le confinement le séparer là, c'est quatre grands thèmes de demandes d'interview qui se sont succédés, mais d'une façon très nette. Hein.
C'est marrant.
Voilà,
ouais.
C'était assez marrant. Il a fallu s'adapter, il a fallu accepter de déchirer tous les plannings olympiques qui étaient tout autour de mon bureau sur le mur. Et puis, tout de suite.
Un petit 1 derrière le 2.
C'est ça. Et puis, mais tout de suite, de toute façon, ça a été l'action tout de suite et la presse a géré. Donc, pas le temps de s'ennuyer, en fait.
Et je rebondis par rapport à ce que tu disais, parce que je trouve que c'est très intéressant et je l'ai observé, moi aussi, d'un point de vue lambda, on va dire. Qui suit les médias régulièrement, on a vu qu'il y avait, j'ai trouvé qu'il y avait quand même de plus en plus de place qui était accordée sur les thématiques comme la grossesse, qui est quelque chose qui était déjà enclenché, je trouve, avant le confinement.
Oui, tout à fait. Hein. Oui,
on voyait de plus en plus.
Ça fait un peu plus d'un. Oui, il y a eu, moi, sur une grosse année, il y a eu des demandes et sans compter toutes les demandes de sociétés de prod qui essayent de vendre ce type de sujet aux chaînes et qui n'y arrivent pas toutes. Donc voilà, il y a beaucoup de demandes et il y en a peu qui reviennent de façon concrète. Là, c'est plus pour des formats un peu longs, hein, voilà. Mais sinon, effectivement, ça faisait déjà un an et demi, on était beaucoup sur ces types de sujets. Et pendant le confinement, forcément,
ça s'est multiplié.
Comment
tu l'expliques, ça ?
Je pense il y a eu aussi ce qui était rigolo, c'est que par exemple mes clientes qui sont mamans faisaient l'école à la maison. Alors, pour celles qui ont des enfants en âge scolaire, c'était le cas de Mélina et de Sarah. Donc, faisaient l'école à la maison, ou pour celles qui en ont des plus petites, il n'y avait pas de nous, enfin, les garder. Donc souvent, quand on calait des interviews, c'était en fonction de la sieste de bébé ou de l'heure des devoirs. Alors, ça faisait souvent rire les journalistes et qui disaient « Ah, d'ailleurs, ça pourrait être intéressant de voir le côté maman aussi. » Donc, il y a des choses comme ça qui sont arrivées un petit peu de façon empirique, enfin, comme ça. Après, je pense aussi que comme c'était un sujet qui était déjà dans l'air du temps et que là, il y avait une phase où la presse, les médias avaient besoin de contenu. Ils avaient aussi un peu plus de temps, ils se sont posés. Et comme c'était un des sujets qui fonctionnait bien déjà depuis un certain temps, je pense que ça leur a aussi donné l'idée d'aller sur ce type de sujet. Il y a aussi tout ce qui est prépa mental aussi. Ouais. On voit bien depuis un peu plus d'un an, c'est des sujets qui intéressent. On m'a sollicité un petit peu sur ces sujets-là, beaucoup moins évidemment que sur la grossesse et la maternité. Mais j'ai vu passer pas mal de choses aussi, sur le thème de la prépa mentale, parce que je pense que ça fait partie comme ça des deux, trois thèmes qui, depuis un an et demi, intéressent vraiment, et que là, pour le coup, ça a donné certainement l'occasion à certains médias de s'y pencher un petit peu plus.
Toi, tu as senti vraiment une évolution dans les sollicitations que tu avais pour avoir justement du contenu vraiment destiné sur les femmes, sur les sujets même, les sujets traités, ou qu'on faisait plus appel, en tout cas, aux sportives. Là, sur ces dernières années, en tout cas depuis les années depuis que tu as commencé à travailler vraiment dans ce...
Oui, je pense qu'on fait de plus en plus appel aux sportives. Alors, je pense aussi qu'il y a un phénomène, c'est un peu l'œuf et la poule, comme en même temps, elles savent aussi qu'elles ont peut-être plus besoin. Donc, peut-être qu'au départ, elles répondaient aussi plus facilement, plus rapidement, plus spontanément que des fois certains garçons qui ont peut-être un peu moins besoin. Ouais. Et voilà. Donc, il y a de ça aussi. Mais d'une façon générale, oui, il y a beaucoup de sollicitations pour les femmes. Je parle de la presse, hein, pour les femmes dans le sport. Après, en même temps, elles sont aussi très sollicitées sur des choses qui ne sont pas spécialement genrées. Enfin, je veux dire, des émissions d'actu sportive.
C'était ma question aussi. Oui, voilà. C'est-à-dire que même si est-ce que globalement, tu sens que les femmes, pas forcément pour parler de thématiques centrées féminines,
voilà, oui,
féminin.
Non, mais si, voilà. Là, je vois sur tous les plateaux qui se sont organisés à distance. Alors là, bon, je vais en citer quelques-uns, c'est pas grave, hein, que ce soit sur, par exemple, l'équipe du soir qui a fait intervenir en direct, alors sur des émissions qui, à cette heure-là, sont plutôt des émissions foot et tout. Mais voilà,
avec une audience plutôt masculine.
Voilà, Sarah, Mélina, tout ça sont intervenus. Et c'était d'ailleurs assez intéressant de voir les consultants, même s'ils sont, je le sais bien, tous multisports, mais quand même à la base des spécialistes du foot, poser des questions à une lanceuse de disque ou à une boxeuse. Voilà, c'était des échanges en plus très intéressants parce que je pense, du coup, tout le monde avait aussi un peu plus le temps. Donc, on allait plus dans le fond des choses. Donc, voilà, il y a l'équipe, il y a Eurosport aussi qui a fait des plateaux, d'ailleurs, qui continuent toujours avec trois sportifs sur des thématiques différentes. Et là, il y avait aussi bien des filles, des filles que des garçons, mais les filles avaient évidemment toute leur place. Puis aussi, bah, pendant cette période-là, il n'y a pas eu de foot, on ne va pas se mentir.
Ah, bah, qui prend quand même beaucoup d'espace. Hein.
Voilà, et du coup, ça a fait plein de place. Et moi, je me suis dit que c'était une bonne chose qu'il y ait plein de place, qu'il fallait la prendre.
Complètement. Donc, comme quoi, le confinement a aussi eu des effets positifs.
Exactement. Ça a mis peut-être en lumière des disciplines, des personnalités.
Il y avait plus de mal à se faire une place avant.
Exactement. Là, donc, il y avait de la place. Il fallait juste, par contre, pas oublier qu'il fallait la prendre, la place.
C'est ça. C'est marrant parce que nous, on s'était amusés. Je mets des millions de guillemets à ce mot, à faire une petite expérience. Il y a quelques mois, on avait pris le nombre d'articles consacrés au sport féminin ou aux femmes, d'ailleurs pas forcément au sport féminin, mais aux femmes en tout cas, sur les contenus digitaux des médias sportifs.
Oui.
Spécialement vraiment centré sur le digital, donc l'équipe, Eurosport, peu importe, enfin, voilà, tous les plus gros. Et on avait fait une petite moyenne environ du nombre d'articles qui étaient consacrés, on arrivait à peu près à 10%. Alors que bon, j'ai quand même l'impression que ça, c'est une thématique qui prend de la place de plus en plus, on vient de le dire.
Oui.
Mais selon toi, quel est le problème? Tu vois, quand on va sur Instagram, par exemple, bon, c'était il y a quelques mois, il faudrait refaire l'expérience maintenant. Peut-être que ça a évolué avec le confinement, d'ailleurs.
Ouais.
Comment t'expliques que ce soit quand même toujours très compliqué de voir du contenu sur le digital, qui est quand même un des modes de consommation maintenant privilégié des gens, et qu'on ne voit pas les femmes, quoi?
Ce qu'il y a aussi, c'est que sur les contenus digitaux que tu évoques, encore une fois, quand on est en période pleine et qu'il y a déjà le foot et le top 14, et ça prend...
Ça laisse plus de place. Enfin, pas assez, en tout cas.
Voilà. Alors après, certes, il y a aussi du foot et du rugby féminin, mais bon, la médiatisation n'est pas la même. Donc, même là, je regardais donc, certains contenus que tu évoquais dans le métro tout à l'heure. Même là où ça n'a pas repris, mais on sent que ça va venir. Tous les jours, il y a du contenu sur comment le rugby va reprendre, comment le foot va reprendre, et la finale de la Coupe de France, et oui, et non, et ceci, et cela. Et... Donc voilà, donc déjà, il faudrait peut-être refaire l'expérience en retirant, en ne regardant que sur, sans le foot et le rugby masculin pour voir ce que ça peut donner, voilà. Mais là,
pourcentage augmenterait très fortement. Hein,
je pense que ça augmenterait. C'est sûr.
Hein,
c'est mathématique. Après, oui, d'une façon générale, on a toujours tendance à plus parler des sports masculins que des sports féminins. Ouais, c'est comme ça. Alors, je pense aussi qu'il y a, tel ancrage qui remonte de tellement loin que même si aujourd'hui les choses évoluent, bah oui, forcément qu'on va pas passer du jour au lendemain voilà, c'est ça. Donc oui, il y a, c'est ça, c'est qu'il y a ça se chiffre en centaines d'années, enfin oui.
Ouais, là, ça accélère, donc on peut dire peut-être en dizaines d'années que dans quelques dizaines d'années, voilà, ce sera un peu plus
choses,
égalitaire.
Voilà, les choses vont évoluer. Je pense aussi que tout le monde y est quand même de plus en plus vigilant. Se fait aussi rattraper à l'ordre, voilà. Il y a aussi maintenant un certain nombre de lois qui encadrent tout ça. Alors, ça ne veut pas dire que c'est toujours respecté, hein. Faut pas, voilà.
Ça va dans le bon sens, en tout cas.
Voilà, mais les choses vont dans le bon sens. Alors oui, c'est beaucoup trop lent et oui, certes, ça ne va pas. Et on peut me surprendre de temps en temps à râler sur Twitter ou sur ailleurs parce que il y a eu 2/3 de pages de ça et un petit encadré, un petit timbre poste en bas à droite ou alors dans très court. Ah, ça, très court, je ne les aime pas, les très courts, parce que c'était beaucoup trop court. Oui. Voilà.
Comme son nom l'indique.
Voilà, mais après, voilà, c'est filles, garçons, ok, mais après aussi, il y a, comme je disais tout à l'heure, il y a aussi certains sports, que ce soit des filles ou des garçons, qui sont quand même aussi traités... Mais parce qu'à un moment, bah, c'est aussi comme ça. Il y a une économie derrière ça. Il y a un lectorat. Il y a bon. Moi-même, personnellement, je peux pas râler qu'on médiatise pas trop le curling. Tu vois, ça m'intéresse pas.
Enfin, bien sûr. C'est un tort, hein. C'est très
sûrement,
intéressant comme sport.
Sûrement, mais je n'y arrive pas.
Bon. Ouais. Et bah, pour rebondir aussi sur ça, sur l'aspect un peu plus, bah, du coup, toi, ton métier, on parle beaucoup dans le milieu de la communication et en général de personal branding, qui est un mot qui revient beaucoup.
Ouais.
Et particulièrement, je trouve, dans le milieu sportif. Alors, des exemples, il y en a à l'appel, hein, des Michael Jordan ou Cristiano Ronaldo, ou même une Serena Williams. Bon, là, on est sur des gros sportifs, hein, forcément.
Ouais.
Mais qui, on a, en fait, est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui que les athlètes sont devenus des marques aussi ? Et est-ce que de marketer son image aide à en faire parler ?
Oui, forcément. Forcément, bah oui, faut être lucide, forcément, forcément qu'on travaille un peu, on travaille un ou une athlète par rapport à l'ensemble du travail qu'on fait autour de son image, c'est une sorte de marque à lui tout seul, forcément. Mais c'est pas forcément un gros mot de dire ça. C'est pas parce que on travaille avec des outils qui sont du ressort du marketing, etc. Hein, voilà, que c'est mal et qu'on perd notre âme et que non, absolument pas. Je pense que justement, il faut un peu sortir de ces clivages-là où si on fait trop de com, trop de ceci, c'est trop marketing, c'est pas bien. Il faut rester sur le fond, les valeurs, etc. Bah, on peut aussi faire les deux. On peut aussi avoir de belles valeurs, être quelqu'un de bien, ne pas se doper, avoir bon cœur, tout ça. Et en même temps, essayer de valoriser au mieux son image, parce que aussi, si on prend l'exemple d'une Sarah Ouramoun, c'est 20 ans de sueur quasiment dans l'anonymat. Donc, un moment, si on peut correctement vivre, je vois pas
le problème.
Alors, c'est vrai qu'en France, on est souvent un petit peu frileux par rapport à tout ça. Moi, je ne m'inscris pas du tout là-dedans. Je ne suis pas pour les excès, je ne suis pas pour l'outrance, je ne suis pas pour aller se filmer du matin au soir avec des trucs brandés dans tous les sens. Après, ça n'a plus de sens, hein, justement. Mais si tout ça est fait dans le cadre d'une stratégie correctement pensée, une stratégie qui correspond, c'est ça, c'est fondamental au sportif ou à la sportive, à ses valeurs, Ah voilà, moi je faut respecter un certain qui vont me dire bah non moi ça là-dessus je veux pas y aller ou je ne suis pas à l'aise si je devais porter tel type de tenue ou moi mes enfants bah je veux pas les montrer en photo très peu voilà il faut je dirais qu'il faut être douce dans sa façon de travailler il faut faire vraiment de la dentelle c'est-à-dire voilà il faut prendre la personne dans son ensemble voir le mieux pour elle mais après effectivement que bien sûr que il faut lui faire gagner sa vie le mieux possible forcément.
Est-ce que tu as une référence, ça m'intéresse, en termes, là je me focus sur sportif, homme ou femme, une référence dans le monde d'un athlète en particulier qui a vraiment pour toi une communication qui est exemplaire, où tu te dis waouh, là vraiment il y a un taf incroyable qui a été fait.
Alors évidemment c'est toujours au moment où on me le demande, tout à l'heure dans le métro j'ai plein d'exemples qui vont me venir en tête.
Il faut les noter.
Voilà, alors un comme ça, au-dessus de tout le monde, alors pour l'instant je vais rester en France, ouais. Je ne sais même pas d'ailleurs avec qui il travaille, ou je pense qu'il fait pas mal de choses spontanément aussi. J'aime beaucoup ce que fait Martin Fourcade.
Ouais.
Je trouve que, voilà, on en parlait avec Mélina il y a 2-3 jours, c'est la grande classe. Ouais, quoi, ouais. Voilà, j'aime beaucoup, voilà, j'aime vraiment beaucoup, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Voilà. C'est quelque chose en termes de discours, de valeur qui me correspond. Et en même temps, c'est quelqu'un qui a des sponsors, qui fait du business, qui s'en cache pas, ouais. Qui voilà. Et je trouve ça assez juste et assez bien fait. Comme un Kevin Mayer aussi qui a un contenu sur les réseaux sociaux excellent.
Très qualitatif. Même chose.
Ouais, très, très qualitatif. Donc ça, alors c'est des garçons, hein, tu vois, comme quoi. je ne suis pas sectaire. Alors même si elle peut être décriée d'une certaine façon, je trouve que Serena c'est quand même plutôt pas mal,
ouais.
Hein, voilà. En tout cas, moi je suis assez j'aime bien. Bon après il y en a évidemment énormément. Bon, CR7, c'est efficace, mais c'est pas mon...
C'est plus loin de toi.
Ouais, c'est trop efficace pour moi, je crois.
Ouais.
Non, c'est tout... Là, voilà.
Ça fait machine. Hein,
voilà, il y a ce côté-là. Alors après, je sais que c'est dans la vie, visiblement, quelqu'un de très bien, très généreux, etc. Mais c'est moins le genre de com à laquelle je vais être sensible.
Et en parlant de toi, là, pour revenir vraiment plus à ta carrière, est-ce qu'il y a une publication ou une prise de parole que tu as déclenchée et dont tu es la plus fière ?
C'est le shooting photo de Mélina Robert, en noir et blanc de Mélina Robert-Michon enceinte.
Ouais.
Qui était pareil sur 6 ou 8 pages. C'était une photographe, donc on avait beaucoup travaillé en amont pour préparer cette interview et ce shooting. C'est Christelle Bonnet, voilà, qui est une super journaliste et très engagée aussi pour le sport féminin. Et la photographe qui a shooté, c'était une photographe spécialisée dans les danseuses, dans les ballerines.
D'accord.
Et j'avais trouvé beaucoup d'émotions et de grâce, hein, à tout ça. Et justement, à sublimer Mélina, qui est vraiment magnifique sur ses photos. Et ça m'avait beaucoup touchée en me disant, tu vois, là, c'est pas mal quand même parce que le lancer de disque en France, c'est pas la discipline la plus sexy.
Non,
et de la mettre comme ça dans la lumière, c'est quelque chose que j'avais trouvé chouette. Et pendant le shooting, avec la journaliste, on avait eu un moment, on s'est regardé, on avait les larmes aux yeux. Voilà, ça a été
l'émotion, c'était
ouais,
vraiment...
c'est un vrai moment d'émotion. Voilà, ça m'avait beaucoup touchée.
Super. Bah, je vous conseille d'aller voir d'ailleurs ces articles-là. C'est vrai que moi j'ai été les regarder. Ils sont accessibles en ligne.
Oui, on peut les trouver.
On arrive un peu sur la fin. Une dernière question un peu vraiment centrée sur ton métier. Est-ce que tu penses que ton métier est un métier d'avenir ? Et en tout cas, quel avenir tu penses que ton métier va avoir ?
Alors là, c'est la question la plus dure à laquelle... Alors, bah, un métier d'avenir, oui, je pense que oui, parce que le sport prend de plus en plus de place dans nos vies. Hein. Alors, pas que le sport de haut niveau, mais le sport en général. Donc oui, je pense sincèrement que voilà, il y a des jolies suites, il y a des jolies suites à donner. Après, j'ai pas forcément de choses un peu plus précises ou scientifiques sur comment ça va évoluer. Moi, je me considère plutôt un peu. Enfin, j'ai toujours l'impression d'être un. Je ne sais pas si on dit une artisane, c'est un artisan. Enfin, ouais. Bref, voilà, de faire. Voilà, d'être une. Je suis une communicante. Je suis passée par d'autres milieux professionnels et là aujourd'hui, bah voilà, c'est autour des sportifs de haut niveau. Mais j'ai l'impression de faire ça quand même un peu à l'ancienne, même si on s'adapte avec des outils à tous les nouveaux médias, etc. Mais le fond, il est pas différent. Les réflexes sont les réflexes à avoir sont les mêmes. Et donc oui, je pense que dans les années, dans les dizaines d'années qui viennent, que ce soit les sportifs, mais même les personnalités d'une façon générale, les réseaux sociaux ont un tel impact aujourd'hui et tout ce qui est digital ont un tel impact. Que tout le monde va de plus en plus vouloir gérer de façon professionnelle son image pour en tirer parti.
Très bien. Je voulais faire un petit jeu. Je ne sais pas si... Tu fais la grimace ?
Non, bah, ça dépend à quoi
c'est tu joues. Du coup, tu accompagnes beaucoup de sportifs. Je vais faire un petit qui est le plus, qui est la plus en l'occurrence.
Ah, d'accord. Voilà. Moi, j'espère qu'ils ne vont pas écouter. Alors. Ils vont pas écouter.
Il n'y a rien de méchant, normalement, dans les qui est la plus.
Je vais avoir des comptes à rendre.
Bon, il y en a déjà. Les deux premières, tu as déjà répondu dans l'interview, mais je les repose quand même. Mais qui est celle que tu accompagnes depuis le plus longtemps ?
Sarah.
Depuis le moins longtemps ?
Valéria Nayahi.
Qui est celle qui est la plus exigeante avec son image ?
Alison Pinault.
Alors, je crois qu'on l'avait un peu compris pendant l'interview. Effectivement. Celle qui est la plus sollicitée ?
Ah, alors, en ce moment, il y a des périodes, mais je dirais que Mélina Robert-Michon tient pas mal la corde depuis quelques temps. Beaucoup d'actu olympique autour d'elle, son nom envisagé pour être éventuellement porte-drapeau. Absolument. Voilà, donc, et elle a fait partie pendant le Covid de celles qui ont beaucoup travaillé en presse. Donc, ouais, je dirais que Mélina, c'est gratiné quand même.
Très bien. Celle qui est la moins à l'aise avec les médias ?
Il n'y en a pas vraiment parce que généralement, bah, quand on travaille ensemble, on fait en sorte... Non, après, c'est pas qu'elle est la moins à l'aise parce qu'elle fait ça très, très bien, mais celle qui a un peu moins l'habitude parce que c'est la plus jeune, etc., c'est Valériane. Mais par contre, elle sait bien faire, mais c'est elle qui est la moins expérimentée. Ouais. Mais je pense que ça ne va pas durer très, très longtemps.
Celle qui, d'après toi, a le plus évolué dans son rapport à l'image, en tout cas.
Ah, ça. C'est compliqué, ça. Évoluer. Bah, je dirais qu'un peu de Charline et un peu de Mélina, je pense qu'elles se sont des filles, que bah, le titre et l'argent olympique et tout ont fait leur maternité aussi, les ont vraiment transformées en tant que femmes. Et donc, ça se ressent parce que moi j'ai vu hein, certaines évolutions beaucoup plus épanouies, beaucoup plus à l'aise. Donc, je pense que toutes les deux, ouais, elles ont fait du chemin.
Et dernière question, mais qui ne concerne pas du coup des jeunes athlètes que tu accompagnes, quelle est celle que tu adorerais accompagner ?
Ah ! Bah, j'ai l'impression d'être déjà quand même tellement gâtée avec les sportives françaises, chez les françaises, quelle est celle que j'aimerais accompagner ? Alors, je ne vais pas donner un nom en particulier, mais je vais donner une discipline parce qu'elles sont plusieurs. Donc, je crois que j'aimerais beaucoup une nageuse ou une footballeuse. Parce que le football, je connais essentiellement chez les garçons. Mmh. Voilà. Et puis la natation, il y a souvent la France est quand même une nation de natation, il y a souvent de belles histoires. Donc c'est vrai que c'est des terrains sur lesquels je suis pas encore trop allée. Voilà, mais après sinon j'ai pas d'appel pas particulier à faire. Non, je suis déjà extrêmement gâtée avec toutes ces personnes qui me font confiance.
Et pour clôturer cette interview, on pose la même question à toutes les femmes qu'on reçoit, qui est: quelle est ta définition d'une championne ?
Bah, une championne, pour moi, c'est une femme exceptionnelle. Tout simplement, quel que soit son domaine, dans le sport a fortiori, c'est une femme exceptionnelle et qui, c'est quelqu'un qui renonce jamais. C'est ça, une championne. Et tout le monde peut être une championne du quotidien. C'est jamais on renonce, quoi.
Parfait. Bah, merci beaucoup, Caroline. En tout cas, c'était très instructif.
Avec plaisir. Merci à toi, Cléo.
Merci beaucoup. Et puis, bonne continuation à toi.
Merci.
Merci beaucoup.
Por todas esas veces que me puse detrás y yo cambié lo mío por lo que tú querías.
Si ce parcours de femme vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous ou à me faire part de vos commentaires ou suggestions d'invités sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et SoundCloud. Et rejoignez-nous sur Instagram pour découvrir quotidiennement des infos sur le sport au féminin. À très vite!
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.